Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, c'est comme Cannes, compétition et on l'espère, consécration. Pour nos invités, Justine Trier et Virginie Efira, Marco Bellocchio et Elia Souleyman et même Michel Simon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large en direct cette semaine encore du Festival International du Film de Cannes. Une 72e édition d'une qualité exceptionnelle comme jamais depuis longtemps et on imagine bien que le jury présidé par Alejandro González Iñárritu, qu'on dit de surcroît très divisé, n'aura pas eu la tâche facile ce matin dans une très secrète villa cannoise pour départager les 21 films en compétition et accoucher d'un palmarès dont on connaîtra ce soir la teneur. Suivra-t-il la presse internationale? Au baromètre, des critiques, c'est le génial Parasite du coréen Bong Joon-ho qui mène la course, talonné de près par le magnifique portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma et le retour en force et en forme de Pedro Almodovar avec son très introspectif Douleur et gloire. On le saura ce soir, d'autant que dans ces derniers jours même, la compétition a tenu ses promesses. Ce sont trois cinéastes postulant à la Palme d'Or et une comédienne en lice pour le prix d'interprétation que nous recevons aujourd'hui dans Plan Large. Leurs films ont été projetés jeudi et vendredi dans le Grand Théâtre Lumière. Justine Trier et Virginie Efira, la réalisatrice et le rôle-titre de Sibylle, beau portrait de femme cubiste et tragicomique qui est sorti en salle hier. Marco Bellocchio, à notre sens le plus grand cinéaste italien en activité, qui avec Le Traître poursuit son auscultation incisive de la société italienne, ses tares et sa violence endémique, en s'attaquant cette fois à la mafia. Et enfin, le palestinien Elias Souleyman, dont on est ravi d'avoir des nouvelles 10 ans après le temps qu'il reste, avec ce à nouveau très drôle It Must Be Heaven, qui de Nazareth à New York en passant par Paris, nous montre un monde totalement palestinisé. En fin d'émission, Michel Simon nous donnera sa vision de la compétition cannoise de cette année, mais on commence ce plan large cannois par une voix bien connue des auditeurs des matins de France Culture.
Aujourd'hui, les gens, ils sont saturés d'informations, ils ont plein de raisons de pas lire. Donc en fait, ça n'a jamais été aussi illégitime qu'aujourd'hui, peut-être, de publier un livre. Je dis pas ça pour te décourager, mais c'est vrai que t'es peut-être parti au plus mauvais moment quand tu m'as dit il y a 10 ans que tu arrêtais, que tu voulais devenir psy. Tu me dis que tu vas t'y remettre, que tu fais le vide autour de toi, etc. C'est super, sauf qu'on sait très bien que l'inspiration, toi comme moi, ça n'existe pas, et on sait aussi que le travail, ça sert à rien. T'as Adèle Simoni qui va sortir un livre, là, je crois, sur l'affaire de meurtre par texto. C'est une meuf qui a envoyé des centaines de textos à un ami, elle suicidaire jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. Ça, c'est un beau livre de femme.
Cette voix, vous l'aurez peut-être reconnue, c'est celle d'Aurélien Bélanger, oui, qui tous les jours de la semaine conclut les matins de Guillaume Erner. C'est le tout début de Sibylle, le nouveau film de Justine Trier, très beau plan séquence qui s'approche doucement du visage de Virginie Efira dans cet exercice d'encouragement-découragement d'un éditeur pour cette psychanalyste qui souhaite abandonner le divan pour retourner à l'écriture. Elle va par la suite vampiriser pour son roman le cas de sa dernière patiente, une actrice, enceinte de l'acteur principal du film qu'elle tourne, l'acteur lui-même étant l'amant de la réalisatrice du dit film. Hantée par une autre femme de Woody Allen et le Stromboli de Rossellini, Sibylle est un beau portrait de femme d'aujourd'hui, mais ce qui nous a le plus touché, c'est qu'après l'improvisation à rien exténuante de la bataille de Solferino et la linéarité de Victoria, Justine Trier complexifie son cinéma par le montage et elle monte de fait en puissance avec cette façon d'utiliser moins des flashbacks que des images mentales pour densifier son personnage. Rencontre sur une terrasse cannoise avec une cinéaste et sa muse.
J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter.
Non, c'est impossible, ça.
Why did you cast her if you knew that she was Lucy Gore?
I figured it was just a petite histoire.
Action!
I would just have to sit back and watch reality destroy things. It's...
Justine Triet, ouais. Virginie Fira. Nous sommes là pour parler de Sibyl. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est que c'est un portrait cubiste. C'est-à-dire que c'est un personnage qui va se densifier au fur et à mesure qu'on va le découvrir dans le film. Vous allez rajouter comme des couches de peinture un peu au fur et à mesure sur son portrait. Alors, est-ce que quand vous avez présenté ce personnage à Virginie Fira, vous l'avez présenté tout d'un bloc ou vous lui avez laissé la possibilité de construire la complexité du personnage au fur et à mesure que vous-même vous le densifiez pour le spectateur?
C'est une bonne question. Est-ce que non? Je crois que j'ai tout présenté. Alors, non, il y a plusieurs choses. Je pense que je lui ai présenté d'un bloc parce que j'aime pas parler des films avant de le... J'aime vraiment l'idée de montrer tout d'un coup le scénario fini et de ne pas tergiverser pendant des mois en disant je parle de ça, etc. Donc elle a une chose finie. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de choses, des questions, des choses sur lesquelles t'es intervenu, des scènes d'amour. Moi, de temps en temps, c'est vrai que c'était assez peu décrit ce qu'il faisait, donc des choses qu'on a retravaillé ensemble, mais après je crois que c'était assez abouti, quoi.
Ah oui, c'est-à-dire ton scénario était plutôt abouti. Ouais. C'est clair.
Il y avait déjà, je veux dire, en tout cas cet aspect kaléidoscopique un peu.
Peut-être que dans la volonté, non pas ensemble d'aller chercher plus loin, mais en tout cas d'aller chercher ailleurs, vu qu'on n'avait pas répété sur Victoria, on s'est dit là on va répéter. Et qui avait, quand on parle de l'idée par couche, peut-être de travailler d'une manière différente toute l'idée des flashbacks, qui sont, ça j'aime beaucoup parce que c'est pas, il n'y a pas de linéarité sur, puisque c'est des flashbacks qui racontent un amour, et c'est pas tiens une scène la rencontre, une autre scène. Donc c'est comme s'il fallait quand même bien décider. Ça c'était important pour moi. Quel était l'intime de ces personnages? Qu'est-ce qu'ils avaient vécu avant? Et j'imaginais comme ces choses qu'on voit à la foire là, ces mains qui vont piocher pour prendre un objet comme ça. Et voilà, que c'était comme si on faisait ça dans un moment de vie. Donc ça devait être rempli de plein de choses et que ça soit pas trop propre. Qu'on sente tout de suite quel était le rapport qui les unissait. Et ensuite, dans toute l'autre partie de personnages, là, ce qui était assez chouette, c'est qu'il n'y avait pas du tout de personnage à composer, c'était un personnage à décomposer complètement. Oui. Et donc, il y avait ne pas se remplir de certitude sur ce que ça devait être. Et ça c'est, il y a eu une réponse très concrète à ça sur le tournage, c'est que Justine a toujours fait, enfin, dans Victoria, on faisait énormément de prises, peut-être que là, on en a fait davantage encore. Je ne pensais pas que ce record pouvait être battu, mais il l'a été. Et en plus, dans des tonalités presque différentes aussi.
Oui, parce qu'on tourne dans l'ordre des chronologiques. Donc, si on démarre, on est à Stromboli deux semaines après avoir commencé le tournage. Donc, comment avoir exactement le ton? Moi, je pensais que son personnage serait plus comique à ce moment-là. Donc, on cherche ensemble. On est vraiment dans une situation de recherche comme ça, de se dire, on va essayer ça. C'est progressif. Mais c'est vrai que le personnage est tellement multiple, en fait, que c'était jubilatoire à tourner parce que il fallait demander à Virginie d'être comme ça très très comique par moments extrêmement abîmée. C'était un vrai parcours, quoi.
Ce qui permet aussi de faire ça comme acteur, c'est d'avoir très fort confiance dans le metteur en scène. Je me souviens dans Victoria, peut-être qu'au début je me disais attends, est-ce qu'on peut être à la fois comme tout d'un coup j'avais cette idée qu'il faudrait une cohérence. En fait non, et heureusement. Mais tu dis, tiens, est-ce qu'elle peut être comme ça et comme ça? Je me souviens qu'il y avait ça dans Victoria, où ça allait vraiment dans des endroits très divers. Et en fait, oui, parce qu'il y a une complexité, parce qu'il y a plusieurs facettes. Du coup, il y avait déjà cette confiance-là sur le regard de Justine qui permettait de faire le portrait cubiste, comme vous disiez.
C'est vrai qu'en plus, c'est un film qui est un peu compliqué à visualiser pour les acteurs, je pense. Ils lisent. Non, mais tu lis, tu as une idée. Mais en réalité, on le sait. C'est même pour moi. C'est un film qui est à la fois très précis, très dessiné, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui surgit vraiment au montage. Donc, du coup, c'est pas forcément évident. Et puis, comme on tourne dans l'ordre chronologique, voilà, on n'a pas la capacité.
Tu glisses, tu suis, tu vas dans plein de directions différentes. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home.
spectateur, il y a sa dimension supplémentaire puisqu'il est question de cinéma, que ça se passe à Stromboli, que des situations peuvent rappeler d'autres films. On peut se dire aussi que le personnage de Sybille se fait des films, littéralement en permanence, et que ces flashbacks qu'on voit,
tout à fait.
On a appris depuis longtemps au cinéma qu'il ne faut pas forcément faire confiance à un flashback tel qu'il nous les a donné comme objectif. Est-ce que je suis sur une bonne piste ?
Je pense qu'il n'y a pas une seule piste. Et de toute façon, imaginons que ces flashbacks soient exactement le reflet, digéré du souvenir, que c'est même pas une sorte de, que ça se rapprocherait de déjà vécu plutôt que d'un fantasme. Déjà, même dans l'idée de tomber amoureux, ou ça comporte une part de fiction, parce qu'on tombe amoureux aussi du théâtre que comporte l'autre, des ombres qu'il y a dans ce théâtre. Donc je pense que les deux idées peuvent se rejoindre finalement. Qu'il peut pas y avoir de vision du souvenir qui ne serait pas débarrassée d'une forme de fiction. Est-ce qu'elle est totalement fantasmagorique ? Moi, je ne le crois pas, mais vous pouvez le croire. Mais de toute façon, les deux s'imbriquent, je crois.
Oui, puis le film, effectivement, comporte vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que, et en plus, ton personnage est dans une forme de vertige. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit bien, tu le dis, je ne sais plus dans quelle réalité je suis. Effectivement, de te faire te transposer à Stromboli, d'avoir... Pardon, tu veux que j'attende ? Vous voulez que j'attende ?
Au contraire, on est sur une terrasse canoise, on entend un hélicoptère, tout est normal.
Voilà, et puis il y avait un jeu, moi, qui m'amusait, c'est que c'est un personnage qui effectivement, quand il rentre dans l'action dans le film, c'est le moment où on est dans la fiction. C'est-à-dire quand tout à coup il est actif, on est à Stromboli, on est dans le décor le plus irréel possible, avec des métaphores partout, le volcan, le bagage qu'il y a derrière ce film de Rossellini, etc. Donc évidemment, il y avait un amusement aussi à travailler avec ça, avec tout ça, dans le film.
C'è un po' di nebbia di febbraio. Fuori non c'è quasi nessuno. È un giorno triste, lungo e freddo, che tira avanti come può. Perché questa malinconia gira in città, mi gira intorno. Che cosa mi ha bagnato il viso? È pioggia o pianto? Non lo so. E sembra un giorno come un altro. Il primo giorno senza te.
Quoi qu'on dise, Nino Ferrer, ce n'est pas un giorno come un altro, un jour comme les autres. Aujourd'hui à Cannes, on attend impatiemment le palmarès de la 72e édition du Festival International du Film. Sybille de Justine Trier avec Virginie Efira y figurera-t-il ? En attendant, vous pouvez déjà découvrir le film en salle. Il est sorti hier. Autre compétiteur des plus sérieux, Marco Bellocchio, l'immense cinéaste italien, dresse dans Le Traître le portrait de Tommaso Buscetta, ce soldat repentant de Cosa Nostra qui avait permis au juge Falcone, en lui parlant, de décapiter la mafia sicilienne au début des années 1990. À la fascination de longue date du cinéma mondial pour la figure charismatique du mafieux et au spectacle de ses meurtres, Bellocchio oppose une autre mise en scène, celle du tribunal, vu comme un espace opératique, où se libère la parole et s'évitent les regards, et où sa conception lyrique du cinéma s'exprime avec génie. Nous l'avons rencontré, c'était dans Le Trait Design, pavillon italien du Festival de Cannes.
Senhor Tommaso Buscetta, nós temos mandado de prisão, busca e apreensão da sua casa.
O nome dele é Roberto Ferriti.
Comecem pelo escritório, depois os quartos. Eu quero achar as drogas.
Não tem nenhuma droga aqui.
E o dinheiro está onde? Se o senhor colaborar, as coisas podem ser mais simples.
Aqui. Passaporte dele. O nome dele é Roberto Felitti. O senhor tá na casa errada. Pelo amor de Deus, deixa a gente...
Chega! Cala a boca!
Cala a boca.
Senhor Buscetta.
Buscetta. O nome é Tommaso Buscetta, da Senhora Buono.
Podem algemá-lo. Por favor, vamos proceder à busca. Por favor. Vamos, vamos.
Marco Bellocchio, ce n'est évidemment pas la première fois que vous vous emparez de l'histoire de l'Italie. Il y a eu Buongiorno Notte sur l'assassinat d'Aldo Moro, Vincere sur la montée du fascisme et tant d'autres films encore. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut aider à comprendre un pays ?
Et est-ce que c'est pour ça que vous tournez ces films?
Aider, m'aiutare.
Oui, il doit aider.
Una parola impegnativa.
C'est une parole très engageante. C'est clair que
un film. Io lo devo fare perché.
Moi, je dois le faire parce que j'aime tourner. Je suis fasciné par cette histoire-là. Avant même que le discours civil, moral, d'aider, de révéler. Mais je crois que, inexplicablement, en Italie, il y a une façon d'oublier l'histoire, et que même on l'a parfois redimensionnée, réexpliquée dans certaines écoles. Moi, je trouve que l'histoire, c'est très important. J'aime beaucoup, ça m'inspire. Mais cette histoire-là, nous sommes obligés de la représenter, de la recréer de manière originale, parce que nous savons tous que la télévision, surtout, nous a tout raconté. Moi, je suis d'une génération dans laquelle le cinéma politique, le cinéma engagé, le cinéma social,
avait le temps de se représenter
et donc de faire participer les citoyens au débat, à la discussion.
Maintenant,
ça arrive trop tard. Et donc, nous sommes obligés à faire un récit qui soit original, réel. Et seulement de cette manière, idéalement, nous pouvons
intéresser,
impliquer, mais même des générations qui ne connaissent pas cette histoire.
Et précisément, Marco Bellocchio, vous ne faites pas seulement face à la télévision ou au cinéma politique dont vous parlez, il y a aussi tout le cinéma de mafia, c'est un genre cinématographique. En soi, comment est-ce que vous êtes posé les questions de la juste distance par rapport à ce personnage de Tommaso Buscetta pour ne pas être ni dans la fascination ni dans la condamnation?
Parce que Tommaso Buscetta est un personnage pas vraiment ambigu, mais un personnage
qui veut survivre.
Il ne veut pas mourir, il ne veut pas être assassiné. Et ça, c'est un sentiment, une volonté que moi j'apprécie. Surtout de la part d'un homme qui est courageux, qui a toujours risqué sa vie. C'est pas un lâche, hein.
Non si vuole coinvolgere.
Mais il ne veut pas s'impliquer. Il ne veut pas
affirmer
une séparation, disons, entre sa mafia et la mafia victorieuse de cette époque-là. Du coup, donc, il dit de manière pas vraiment rhétorique, mais les principes, les valeurs de presque romantiques d'une certaine mafia qui, d'une certaine manière, prenait la place de l'État parce qu'il n'y avait pas d'État. Et elle refusait cette mafia de commettre des atrocités qui, après, ont été réalisées. C'est clair que Tommaso Buscetta a été un personnage qui se reconnaissait, lui, dans la tradition dans laquelle lui était né. C'est pas un personnage progressiste, quelqu'un qui veut changer le monde, qui voulait changer le monde. Non, je dis ça parce que nos trahisons, mes trahisons, à part les résultats, étaient toujours dans l'esprit de changer le monde. Moi, j'ai quitté le catholicisme, l'éducation catholique, les curés, enfin de tout ce que ma mère m'avait enseigné. Je me suis rebellé parce que je pensais qu'il pouvait y avoir un monde nouveau dans lequel vivre. Après, bon, cela n'est pas arrivé, mais c'est une autre histoire. Mais l'état d'esprit, c'était ça.
Là, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui veut changer le monde, c'est l'histoire de quelqu'un qui change. Et c'est ça que vous filmez. Est-ce qu'un homme peut changer?
Oui, exactement. Lui a contribué.
Tommaso Buscetta, oui, a contribué
Questo lo, è la missione.
Ça, c'est vraiment la mission du juge Falcone. La collaboration de Buscetta a été extrêmement précieuse pour le juge, justement à cause de la mentalité de comment Buscetta a reconstruit, par exemple, toute la coupole mafieuse, les chefs, les sous-chefs. Jusqu'au chef de commission. Il a éclairé le juge Falcone sur ce que la mafia... Bon, les crimes existaient, mais on ne comprenait pas tout vraiment comment cela se passait. Donc, l'esprit très clair, très organisé de Buscetta a été d'une grande aide pour le juge Falcone, et ça, le juge l'a toujours reconnu, et même d'autres repentis, mais surtout de Buscetta.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Marco Bellocchio, le personnage de votre film Tommaso Buscetta est hanté. Il est habité par des images, par des souvenirs et par des visions. Et votre film, de même, est hanté par certaines images. Il y a cette image de cette veuve d'un des policiers qui protégeait Falcone et qui a fait cette adresse célèbre à la télévision aux mafieux en disant « Je vous pardonne si vous vous agenouillez devant moi », qu'on va voir très souvent dans ce film.
Parce que toutes les scènes ont une racine de vérité. C'est-à-dire, là, on a pris par exemple la sœur de Tommaso Buscetta. Après la collaboration de Tommaso Buscetta avec le juge Falcone, ils ont tué son mari qui n'avait absolument rien fait dans cette histoire. Donc la sœur de Buscetta, elle dit, je ne me reconnais pas dans cette famille, ne m'appelez plus Buscetta.
Voilà.
Ces situations-là, nous les avons élaborées.
Il discorso anche del,
en fait,
di un vero e proprio incubo,
le discours d'un vrai cauchemar, d'une certaine manière,
nella realtà,
a
nel senso
une,
che
une répercussion dans la réalité, dans le sens où le choix de Tommaso Buscetta a été un choix extrêmement élaboré, extrêmement
fort.
Bon, ça ne se manifestait pas avec les névroses actuelles que nous connaissons, de quelqu'un qui peut être incertain, qui peut être un peu perdu. Non. Lui, il est resté de glace. Mais le fait de sauter le pas, de collaborer avec l'État, c'est un abîme, c'est un précipice. Pour quelqu'un comme lui, Tommaso Buscetta, c'est à en mourir.
Infatti,
et d'ailleurs,
non a caso, lui,
ce n'est pas un hasard si Buscetta a tenté de se suicider.
Che è una cosa seria,
c'est quelque chose de sérieux. Il a risqué de mourir.
De Gennaro, il capo della
d'ailleurs,
polizia,
De Gennaro, le chef de la police, à un moment donné,
le fait
contrôler, suivre, surveiller, parce qu'il a peur, et ça je l'ai lu dans un livre, il a peur que Tommaso Buscetta se jette dans les escaliers. Il a dit d'ailleurs, contrôlez-le toujours, surveillez-le toujours. Et puis ensuite, quand Tommaso Buscetta commence à collaborer avec le juge, son choix devient irrémédiable, il n'a plus aucun doute.
Et puis il y a une image particulièrement saisissante dans votre film, Marco Bellocchio, c'est l'attentat contre le juge Falcone, mais vu de l'intérieur de la voiture de Falcone. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de représentation?
Et là, c'est clair, In queste,
Alors, dans ces scènes-là, ce n'est pas que, que je voulais de manière étrange, avec des effets de style. Bon, d'autres gens l'ont fait d'une certaine manière, alors moi, je dois le faire d'une autre manière. Non, non, pas du tout. Mais dans ce cas-là, il m'a semblé que le fait d'être dans la voiture, mais toujours dans la voiture, et ne jamais en sortir, pouvait être une représentation de plus étonnante. Après, ensuite, le cadre, la scène, a été retravaillé en post-production.
Mais questa era l'idea.
Ça, c'était l'idée.
Et, abbiamo cercato di
et nous avons essayé de la réaliser.
Marco Bellocchio, on sait votre amour pour la musique. Vous avez retrouvé une collaboration avec Nicola Piovani, que vous aviez, avec qui vous n'aviez plus travaillé depuis longtemps. Et Verdi est aussi dans votre film. Il y a toujours une dimension lyrique, opératique dans votre cinéma.
Beh, sì, oui.
Nous avons utilisé, d'ailleurs pour la scène du procès,
una musica di un compositore francese,
une musique Aubry, d'un compositeur français,
René Aubry.
Aubry.
Però,
mais
visto che la musica
vous avez vu
è
que la musique
molto combinata,
est
molto
très
libera,
composée, très libre.
Un certo punto, su
et à un
lui
certain moment, sur Bouchette,
lanciato,
on a glissé la chanson Historia di un amor
ispirandoci
en s'inspirant.
En
s'inspirant d'une vidéo dans laquelle le vrai Buscetta chante cette chanson et même la musique de Nicola Piovani, mais avec beaucoup de liberté. Personne ne s'en est rendu compte, mais il y a des titres de Piovani que lui a utilisés dans d'autres films, mais moi ça ne m'intéresse pas, ça fait une sorte de magma. Voilà. Qui donne
Però
cela.
La musica è molto
Mais
importante,
certo. La musique est très importante, bien sûr.
Et poi, et puis, anche l'avrà riconosciuto,
et vous aurez certainement reconnu Falcone, sur la mort du juge Falcone, Macbeth, il y a un extrait Verdi, du Macbeth de Verdi, et sur la sentence, le fameux va pensiero,
che è come se,
qui est comme avant tout va pensiero à ce côté solennel qui est juste. Et puis, moi j'ai pensé ensuite, c'est comme si ce procès, vraiment, c'était l'Italie. Pas seulement la Sicile, mais va pensiero, c'est l'Italie.
France Culture, plan large et en direct du Festival International du Film de Cannes. Les propos de Marco Bellocchio ont été interprétés par nul autre que le réalisateur de plan large Massimo Bellini, et son film Le Traître sortira en salle le 6 novembre, mais vous pouvez d'ores et déjà le découvrir demain à 13h30 à Paris, Lyon, Nantes, Rennes et Toulouse, où les cinémas Pathé Gaumont proposent tout le week-end un beau choix de films de la sélection officielle du Festival de Cannes. Dernier invité dans ce plan large cannois, lui aussi en compétition pour la Palme d'Or, le palestinien Elia Souleyman. Hormis une participation en 2012 dans le film collectif 7 jours à la Havane, ça faisait 10 ans qu'on attendait un nouveau long métrage de l'auteur de Chronique d'une disparition, Intervention divine et Le temps qu'il reste. Avec It Must Be Heaven, cet héritier direct de Buster Keaton et de Jacques Tati signe une de ses comédies burlesques à mèche lente dont il a le secret. Dans son propre rôle de cinéaste qui quitte son Nazareth natal pour tenter de trouver à Paris et New York des financements pour son nouveau film, il nous permet, par son regard perpétuellement étonné, de constater combien notre monde occidental, avec son obsession sécuritaire, s'est en quelque sorte palestinisé. Et surtout, il nous en fait rire, car comme le dit son ami Gaël Garcia Bernal quand il le présente à New York à une productrice qui n'en a cure, Elia Souleyman est certes un cinéaste palestinien, mais il fait des comédies, des drôles de films.
Yeah, let me present you to my very good friend, Elia Souleyman. He's a Palestinian filmmaker.
Nice to meet you.
But he makes funny films. Mm-hmm. He's doing a comedy right now about peace in the Middle East.
That's funny already.
It's called Heaven Can Wait.
Okay. Sweetie, we're sort of late, so do you mind if we go now?
Yes.
Good luck with your film. It was a pleasure to meet you.
Ilia Suleiman, votre nouveau film, It Must Be Heaven, est dédié à plusieurs personnes à la fin, mais d'abord à un pays, la Palestine. La Palestine, comment est-ce que vous l'entendez? Est-ce que c'est un pays en devenir? Ou est-ce que c'est d'abord un état d'esprit et une façon de voir?
It's the three of them, of course. And there's a fourth.
C'est évidemment les trois, et il y a un quatrième élément qui est un concept. Pour moi, la Palestine, c'est un concept pour les choses progressives, pour une idée de la justice, c'est quelque chose d'éthique également, et ça a à voir avec ces gens qui ont subi 70 ans l'oppression, l'occupation et la discrimination. Il s'agit aussi d'une Palestine qui dépasse ses frontières. Et ce film parle également de la palestinisation du monde. Hein. C'est un voyage tout autant à travers la Palestine qu'à travers le globe. Dans le film, je suis un peu ironique sur les possibilités d'une telle Palestine. En termes politiques, je ne pense pas qu'on aura une Palestine géographique. Je crois que tout simplement, ça sera un territoire où les gens devront vivre ensemble. Hein, et je crois que c'est la seule solution qu'on aura.
Votre film commence par des portes qui sont fermées. Il va falloir se battre pour les ouvrir. Il se termine par une fête, par la jeunesse de Palestine qui danse. Pourquoi est-ce que vous avez mis ce film entre ces deux images très fortes?
I think... You know, when I start to write, I always
Vous
would
savez,
like to
quand je commence à écrire, j'aurais toujours envie d'avoir déjà le début et la fin avant de mettre quoi que ce soit au milieu ou quelles que soient les émotions. J'ai toujours un peu l'idée d'ouvrir mon film comme un film de série B, et comme vous le voyez, il n'y a plus rien qui a à voir avec ce début. Après, hein, c'est juste comme une ouverture d'orchestre, talalala. Je l'ai fait par le passé, et j'essaie toujours un peu d'avoir ce côté anecdotique, humoristique et également cinématographique, mais aussi trompeur, hein, parce que on commence par cette cérémonie, on commence avec cet homme de Nazareth, donc il a quelque chose à voir avec la religion, puisqu'évidemment on associe ça avec la religion. J'aime cette idée de retourner les choses, et puis j'adore aussi les chutes. Hein. La chute, c'est que il semble que tout va être très très religieux, et puis en fait ce type est un évêque qui est un voyou, et donc c'est une ouverture drôle, le genre d'ouverture que j'aime avoir dans mes films. Après, c'est beaucoup plus sérieux, hein, et c'est en lien et dans la ligne de l'humour du film. Il y a deux facettes. Ce personnage, alors si on va dire ce personnage, you know, hein, sur lequel le temps est passé, voilà, et il revient en Palestine et il voit qu'il y a une génération qui est en train de manifester pour pouvoir exister culturellement, mais qui le fait aussi de manière festive, parce que la fête est une forme de résistance. Et donc c'est une scène où l'espoir transparaît pour cette jeune génération et aussi pour les jeunes générations palestiniennes, en particulier dans ce cas-là. Mais il faut que je dise que quand on fait une scène comme ça, on pense bien sûr aux Palestiniens, mais je pense aussi à mes propres voyages autour du monde, au moment où j'ai vécu à Paris, à New York, des moments où je suis revenue aussi, hein, dans ces endroits. Et je pense que ça ne concerne pas seulement la jeune génération de Palestiniens, ça concerne la jeune génération partout dans le monde. Et je pense que les jeunes générations vont bientôt prendre la main et vont terminer le travail, en fait, une bonne fois pour toutes.
Tout ce que vous nous décrivez, c'est votre regard de voyageur, venu de Palestine qui le permet, ce perfect stranger dont vous vous moquez à un moment via une question très alambiquée d'un universitaire américain. Mais c'est vrai que vous nous faites voir des choses que peut-être nous ne voyons pas. Cette palestinisation du monde, le fait qu'on s'est habitué à voir des policiers partout, à être en particulier même au Festival de Cannes, à passer sans arrêt par des scanners, des Porsches métalliques et autres. Est-ce que vous voulez aussi, nous, spectateurs français, occidentaux, nous ouvrir les yeux?
I have the feeling that everyone is seeing.
Alors, j'ai le sentiment que tout le monde voit les choses comme je les vois. Je pense que nous partageons tous, en fait, ce moment d'aliénation. J'ai le sentiment que tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Hein, je ne crois pas que c'est une expérience purement palestinienne. Je crois que ça se passe partout. Je crois, et c'est quelque chose que je redis sans cesse, il y a ce sentiment, en fait, que nous sommes prisonniers à l'intérieur et qui n'est pas partagé, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment partagé. J'espère que ce fil, alors j'espère que je ne suis pas trop présomptueux ou ambitieux, mais j'espère que ce film peut espérer répandre la communication et le partage, peut-être pas de manière verbale, mais en tout cas sur l'émotionnel, c'est-à-dire dire aux autres je ressens ce que toi tu ressens sur ce que l'on voit aujourd'hui. Et évidemment, ça ne sera que pour le meilleur si des dizaines de personnes partagent ça, parce que l'idée faire un film avec de l'humour, avec du burlesque ou avec des tentatives de poésie, c'est aussi appelé à la non-violence, c'est aussi appelé à l'amour, c'est appelé à la compassion, et c'est demander un peu plus d'intimité les uns avec les autres. Et je crois que quand on rit ensemble, on partage un moment de rupture. Et c'est quelque chose de très important. Et quand j'entends les gens dire « j'ai ri » ou « j'ai pris du plaisir » ou « j'ai aimé cette scène », c'est une manière de produire quelque chose de positif chez les gens pour essayer d'apprécier ce qu'est le plaisir de vivre, d'être en vie, et peut-être également essayer d'activer une petite énergie qui nous permettra d'arrêter les gens qui veulent imposer leurs propres règles sur nous.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
C'est pour ça qu'il est important d'utiliser le langage du burlesque, de ce burlesque à mèche lente qui est le vôtre, qu'on connaît bien depuis Chronique d'une disparition et que vous avez hérité de Buster Keaton, de Jacques Tati. Vous êtes dans cette ligne-là. C'est pour ne pas faire du discours, mais que ce soit encore plus efficace, précisément parce que ça passe par le corps.
I cannot claim that all words are... You know, targeted.
Je ne peux pas revendiquer que tous les mots soient ciblés. Hein, dans ce cas-là, je pense que la langue poétique et la langue verbale sont aussi une manière parfaite de devenir un habitat naturel pour nous. Il ne s'agit pas du langage lui-même. C'est le bruit qui émane de certaines langues, ou disons plutôt que c'est la manière dont le langage a été construit corrompu. Hein. On peut sentir le silence dans certaines images cinématographiques, mais on pourrait aussi sentir le silence dans le langage. Ce n'est pas contre le langage, c'est contre le langage corrompu. Hein. De la même manière, je peux vous dire aussi que les images cinématographiques ont aussi été beaucoup corrompues. Hein. Le bruit qu'on entend du cinéma commercial qui vise à être consommé est un autre exemple. Je pense que la langue a été mal utilisée comme un moyen de communiquer de l'information. Et c'est quelque chose que je sens très politiquement conservateur et qui est contre le sens de la liberté. Et à partir du moment où vous pouvez ouvrir l'espace pour de multiples formes de communication et d'interprétation, comme vous pouvez démocratiser l'image, c'est ça qui me permet d'être à l'aise. Il faut de toute façon qu'on soit honnête et ne pas dire qu'on sait plus que les autres. C'est juste mettre la question en avant et partager une conversation, hein, et partager le plaisir. Et je dis toujours que le plaisir est quelque chose de nécessaire. C'est une de mes cibles et c'est le plaisir qui peut nous permettre d'être plus en touche avec nous-mêmes, plus intime avec nous-mêmes, sentir qu'on a le sens de l'autre et faire un film comme celui-ci, comme tant d'autres œuvres d'art que j'admire, ça peut être une forme de consolation. C'est une manière d'aller vers l'autre. Et je crois que c'est quelque chose qui peut se produire avec le rire, avec la poésie, avec le burlesque. Il n'y a pas de stratégie, en fait. Hein. J'ai pas un agenda politique pour faire de ce film quelque chose qui soit purement personnel, intuitif. Mais lorsque je rentre profondément en moi, c'est pour arriver à toucher l'universel de tout ça. Et plus profond je m'enfonce, plus j'arrive à rentrer dans la cosmologie de la communication.
Le plaisir dont vous parlez passe aussi pour le spectateur par la musique. Les musiques, les bandes originales de vos films sont toujours extraordinaires. À quel moment arrivent ces musiques? Est-ce que, comme vous nous montrez votre espace de travail, quand vous vous battez avec le moineau, vous avez des post-it partout, est-ce que dans ces post-it, il y a déjà, par exemple, les musiques que vous allez utiliser dès l'écriture?
Sometimes even years before.
Oui, quelquefois même d'ailleurs des années auparavant. Ce qui est incroyable avec la musique, c'est que ça raconte une histoire qui n'a pas encore été écrite. Hein. Souvent, j'écoute un morceau et je vois là, en fait, une scène déjà. Hein. Je ne sais pas laquelle c'est. Et donc, dans mon ordinateur, je suis quelqu'un de très chaotique et quelquefois, je perds ces dossiers. Mais j'ai un certain nombre de chansons sur lesquelles il y a écrit traveling, sur lesquelles il y a juste un point d'interrogation. Et j'écoute en fait ces morceaux constamment sans trop savoir où je vais les mettre. Et il y a certaines musiques qui ont un côté politique et que je ne sais pas où je vais mettre. Certaines sont humoristiques. Tout simplement, vous écrivez et puis quelquefois il y a une certaine musique qui vous revient en tête, une chanson. Hein, pour moi, la musique, ce n'est pas quelque chose qui est en fond, c'est quelque chose qui est en parallèle. Hein, et le choix d'une chanson qui a son propre récit viendra se mettre en parallèle avec la narration du film. Et donc, ce choix de la musique est crucial pour moi.
Et puis enfin, Elia Suleiman, on est d'autant plus heureux de vous retrouver que la dernière fois qu'on avait eu de vos nouvelles, il y avait eu ce court-métrage dans 7 jours à La Havane, mais votre dernier long-métrage, c'était déjà il y a 10 ans. Ici, le temps qu'il reste, il y a un moment dans ce nouveau film, It Must Be Heaven, où vous rencontrez un producteur parisien bien connu pour les gens qui le connaissent, et qui va vous dire, bon, il est très bien ton film, mais il n'est pas assez palestinien. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réellement déjà entendu?
Yes, in Paris.
Oui, tout à fait,
long ago.
À Paris, mais il y a longtemps.
And it was when I was trying to
C'est quand j'essayais de trouver un producteur à Paris. Je vivais à New York à l'époque. Je m'étais fait jeter d'un certain nombre de maisons de production parce qu'on m'accusait soit d'être une marionnette américaine, soit d'être quelqu'un qui n'avait aucun sens de ce qu'était être palestinien. Et je crois que c'est une référence à cette période où la gauche parisienne ou française pensait qu'ils en savaient davantage sur la Palestine que les Palestiniens. Et donc, ils pensaient qu'ils avaient le privilège de défendre cette cause à travers le monde entier. Hein. C'est très français, hein, je crois, cet aspect post-colonial. Je crois qu'il y a beaucoup de fêlures dans notre monde aujourd'hui. Hein. Ça ne se passe plus, je crois, ça. Mais il y a quelque chose qui poursuit ce discours qui est que souvent, comment je vais dire ça, on choisit, ces gens choisissent les réalisateurs palestiniens qui leur correspondent, qui leur vont, hein, c'est-à-dire particulièrement si ce sont des gens qui font des films qui ne font pas mal à Israël, hein, parce que il y a des discours en France et également dans tous les pays d'Europe que il s'agit donc de s'emparer des nouveaux discours des réalisateurs palestiniens, mais il faut que ces discours soient sans danger. Hein. Donc, c'est différent. C'est ces gens qui remplacent un peu la gauche que moi j'ai connue. Il y a aussi des gens courageux, bien sûr, qui laissent ces gens s'exprimer.
I said, is this contagious? You said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too.
C'est Pascal Fougère qui traduisait les propos d'Elia Souleymane avec la complicité de Massoumé Laïdji. Son nouveau film It Must Be Heaven n'a pas encore de date de sortie à suivre, mais il a déjà d'ores et déjà un prix, le prix de la critique internationale, le prix de la FIPRESCINE. Pour voir dans vos cinémas les films du Festival de Cannes, vous avez le choix. Il y a ceux qui sont déjà sortis, comme The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, Douleur et Gloire de Pedro Almodovar, Le Jeune Ahmed des Frères Dardenne ou encore Sibylle de Justine Trier que nous avons entendu en début d'émission. Et qui sera, à moins qu'un heureux événement soit intervenu d'ici là, au micro de Marie Richeux dans Par les temps qui courent, mercredi soir prochain. Vous pouvez aussi, tout ce week-end, je l'ai dit tout à l'heure, aller à Paris, à Lyon, à Nantes, à Rennes ou encore à Toulouse, où les cinémas Pathé Gaumont proposent de nombreux films de la sélection officielle du Festival de Cannes. Ne ratez pas aujourd'hui à 17h30, s'il reste des places, mais j'en doute, le magnifique portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Pour les sections parallèles, si vous êtes parisien, tout sera visible d'ici peu. Pour un certain regard, ce sera du 29 mai au 4 juin au Reflet Médicis, la quinzaine des réalisateurs au Forum des Images du 30 mai au 9 juin et la semaine de la critique à la Cinémathèque française du 5 au 12 juin. Et pour vous guider dans vos choix, dans un instant, c'est Michel Simon qui va nous donner sa lecture de ce qui s'est joué depuis 11 jours dans le Grand Théâtre Lumière du Festival de Cannes. Mais avant cela, petit aperçu de la compétition cannoise telle que remixée par notre réalisateur Massimo Bellini.
To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth.
So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does.
Cliff here is meant to help carry the load.
Hi, little Joe.
Bonjour madame. Police de Roubaix. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous.
Vous avez vu quelque chose?
Bonjour, monsieur. Vive la France, hein?
Anda, mira. Me encanta que tengas aquí sabor.
¿Para qué has venido?
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours.
Questa guerra non è finita, è appena cominciata. I mandanti che tira i fili sono a Roma e lì dobbiamo arrivare senza possibilmente farsi ammazzare.
Morire nel proprio letto.
You look gorgeous. Oh my.
Oh my, c'est un peu comme ça qu'on se souvient de ce qu'on voit à Cannes, hein, Michel Simon, comme un grand montage où les films entrent en collision, où les films se répondent, où les films dialoguent. Ce qu'on vient d'entendre était signé Quentin Tarantino, Jessica Hausner, Arnaud Desplechin, Lajli, Pedro Almodovar, Terrence Malick, Marco Bellocchio, Céline Sciamma et Jim Jarmusch. Une belle affiche, hein, une telle affiche avec d'autres grands noms encore, Bong Joon-ho, Kleber Mendonça Filho, Ken Loach et j'en passe, tous les festivals en rêve et Cannes l'a fait. Alors les premiers films commencent à tomber, j'ai donné celui de la Fipresi, It Must Be Heaven d'Elia Souleymane, le prix œcuménique est allé sans grande surprise à Une vie cachée de Terrence Malick, le prix de la citoyenneté sans surprise là encore pour Les Misérables de Lajli, le prix des cinémas Art et Essai, c'est une nouveauté ça, au formidable Parasite de Bong Joon-ho, sans oublier L'œil d'or qui distingue le documentaire syrien For Sama de Wal Al-Kateb et Edward Watts, un film qu'on avait vu au tout début du festival en séance spéciale. Alors Michel Simon, la compétition de cette 72e édition, déjà sur le papier, c'était assez excitant. Est-ce qu'elle a été à la hauteur de vos attentes?
Oui, par exemple, chaque année, j'ai une Palme d'Or favorite ou deux. Cette fois-ci, il y a quatre films pour lesquels je serais très heureux qu'ils aient la Palme d'Or. C'est dire, de même qu'on se place un très haut niveau, je pense que c'est une des meilleures sélections de ces 15 dernières années, certainement.
Alors, qu'est-ce que vous retenez en particulier? Bah, dites-nous vos quatre ou cinq palmes d'or, déjà, pour commencer.
Alors, il y a d'abord, dans l'ordre, Almodovar, évidemment, parce que je pense que...
Douleur et gloire.
Il mériterait de l'avoir, parce qu'il l'a jamais eu. C'est plutôt ça qui me pousse vers lui, mais en même temps, il y en a d'autres. Il y a le film de Terrence Malick, que j'ai trouvé un retour du grand Malick. C'est pas que j'étais sans intérêt pour les trois derniers, qui étaient des films expérimentaux et son documentaire. Il a fait quatre films. Tout artiste a le droit de s'engager dans des voies très personnelles, mais cette fois-ci, il revient à un sujet très fort. J'emploierai le mot sublime, non pas comme tout le monde dit sublime ou surréaliste, c'est-à-dire des mots qui ont perdu leur sens. On est dans le sublime, c'est-à-dire dans la peinture américaine du 19e siècle, dans les peintures de Caspar David Friedrich ou de Carus. On est dans les textes de Walden, de Thoreau sur la désobéissance civile. C'est un grand film de moraliste qui dit non. C'est le personnage qui refuse de servir Hitler, qui refuse de faire allégeance. Et je trouve que dans notre époque où il y a tellement de démissions, où partout le fascisme s'installe, où les gens n'osent pas dire non, même ils portent au pouvoir au Brésil, en Italie, en Turquie, partout en Autriche, le fascisme qu'on croyait aboli, je pense que le film de Malick est capital et qu'en plus c'est une grande inspiration romantique. Une exaltation de la nature que je trouve absolument sublime. J'ai beaucoup aimé le film de Bong Joon-ho, le Parasite. Qui est une relecture un peu de la famille de Ozu et ensuite totalement désintégrée.
C'est beaucoup plus énervé que chez Ozu.
Oui, mais la première partie fait penser à Ozu, mais de l'intérieur c'est commence à pourrir et puis alors la fin est un pandémonium à la Bong Joon-ho. Enfin le film de Bellocchio, Le Traître, que je trouve dans la grande tradition du cinéma italien, des plus grands films politiques que le cinéma italien ait donné, avec un classicisme tellement rigoureux que dans 30 ans, il n'aura, j'en prends le pari, pas bougé d'un pouce. Ça restera un très grand film dans 30 ans, ce que je ne dirais pas de beaucoup de films.
Alors, est-ce que vous avez repéré un peu des grandes tendances thématiques, des grandes tendances formelles? Cette année, on a beaucoup parlé du genre, notamment, très utilisé cette année.
Oui,
des genres, en tout cas.
Oui, ça, c'est aussi les goûts de Thierry Frémaux, je crois, le directeur artistique, qui a voulu ouvrir depuis longtemps le Festival de Cannes à des genres populaires. Et c'est vrai que on le retrouve dans un certain nombre de films. Je me permettrai tout de même une petite parenthèse sur un film qui m'a profondément déplu, qui est le film de d'Abdelatif Kechiche, que je trouve
qui est le seul film peut-être qui a beaucoup partagé cette année à Cannes.
Bah, c'est-à-dire que pas vrai. Enfin, tout de même, c'est le film le plus mal coté de toute la critique internationale. Il est en bas de l'échelle, il est au tout dernier rang. Il a évidemment des partisans inconditionnels, toujours, qui, quel que soit le film... Alors, on reproche à Terrence Malick de se répéter, alors ce que je trouve ça stupéfiant, ne pas reprocher à Kechiche de se répéter, alors qu'il refait exactement le même film qu'il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Je trouve un film sur le regard masculin, en particulier sur les femmes, extraordinairement déplaisant, c'est-à-dire il filme les fesses des femmes avec un regard insistant que je trouve vraiment choquant. Et je m'étonne que d'ailleurs pas mal de consoeurs trouvent ça très bien, alors que on critique le regard masculin dans les pages société, mais dans les pages artistiques, on passe tout et on accepte tout. Donc j'ai été extrêmement, extrêmement choqué par le film de Kechiche.
Et oui, alors vous ne répondez pas complètement à ma question sur des grandes tendances formelles, peut-être aussi. Est-ce qu'il y a des figures? On a beaucoup parlé de la figure du revenant qui venait. Alors c'est vrai qu'on a commencé avec un film de zombies, donc on avait tendance à voir des zombies partout. Mais c'est vrai que tout fait un peu retour. Il y a des fantômes chez Mati Diop. Il y a des images qui ressurgissent comme ça. Il y a même des fantômes chez Bong Joon-ho. Hein. Il faut pas trop parler du film. Hein, on nous interdit, on nous demande de pas le faire. En tout cas, de pas divulgâcher pour les spectateurs. Mais il y a cette figure, il me semble, qui est quand même là très présente cette année.
Oui, c'est très présent, mais je trouve pas que ça a inspiré les meilleurs films. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement les zombies, il y a le film de Bonello, il y a le film bien sûr de Jim Jarmusch qui est tout de même très décevant, très paresseux. Alors on dira que c'est cool pour ne pas être méchant, mais c'est tout de même un film qui manque d'inspiration, de rythme. Donc je pense que ce thème, vous avez parfaitement raison de le souligner, mais je pense pas que c'est lui qui a le mieux inspiré. Et dans le film très inégal de Quentin Tarantino, je dis ça pour un cinéaste que j'admire énormément, dont j'ai trouvé le film assez décevant, c'est pas le meilleur du film. L'épisode Sharon Tate de ressusciter Sharon Tate.
Ah ben ça y est, vous divulguez. Tarantino avait demandé de pas le faire.
Ben oui, peut-être, mais je suis pas obligé d'obéir au metteur en scène. En tout cas, Sharon Tate, un jeune spectateur qui voit ça, qui ne connaît rien à cette histoire, va croire que Sharon Tate n'a pas été tuée. Je trouve que c'est très léger. Moi, ça me gêne pas qu'il fasse mourir Hitler dans Inglourious Basterds, parce que Hitler c'est un méchant, Sharon Tate est une victime, et j'aime pas qu'on joue trop avec les victimes.
Alors en un mot, prenez un pari, à votre avis, qui va sortir ce soir en Palme d'Or?
Très difficile à dire, parce qu'il y a 8 metteurs en scène sur 9, et les metteurs en scène ont en général des opinions très précises, ils risquent de se disputer entre eux et de choisir un outsider qui sera peut-être au fond de seconde zone pour ne pas primer les grands.
On verra. Merci Michel Simon, je n'étais pas d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais j'étais ravi de vous l'entendre dire. On se quitte avec un peu d'amour délivré par Los Bravos dans le nouveau film de Quentin Tarantino. On verra ce soir si Alejandro González Iñárritu et ses jurés étaient en osmose avec vous ou s'ils sortent un cinéaste mineur, comme vous l'avez dit. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Raymond Albouy, Gilles Gallinaro et Benjamin Thuo pour les reportages, Tanguy Lecorneau à Cannes et Alex Dang à Paris. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet, réalisée par Massimo Bellini. Merci à l'ensemble des équipes de Radio France à Cannes, Raja Boudni, Sandrine Bréchaud, Pascal Bresse, et une pensée très très amicale pour Cédric Lalanne et Benoît Chapon. La semaine prochaine, Plan Large vous fera entendre des sons dans l'espace. Nous serons à l'écoute du Space Opera avec Michel Chion, qui consacre un passionnant ouvrage à la question. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.